Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale pour ce qui va être le 203e numéro de Mélomanie. Et l'actualité bat son plein en ce moment avec les représentations de Roussalka, l'opéra de Dvorak à l'Opéra National du Capitole, celle à venir de Daphnis et Alcimadur, l'opéra en occitan de Mondonville par les Passions de Montauban au même endroit, les 12 et 13 octobre, sans oublier les concerts du Festival Toulouse des Orgues, le début de saison des grands interprètes et les concerts de l'Orchestre National du Capitole qui s'enchaînent. La semaine va donc être particulièrement riche et pour vous la présenter et animer cette émission avec moi, je suis très heureux de pouvoir compter une fois de plus sur l'assistance précieuse du fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, l'invité d'honneur de ce numéro, Clément Lanfranchi, pianiste, claveciniste, organiste, chanteur et fondateur du Consort Apollon, l'ensemble qu'il va diriger lundi prochain, 17 octobre, à l'église Saint-Nicolas de Toulouse, pour un concert dédié à des suites d'orchestre de Lully et Rameau. Nous allons en parler avec Clément Lanfranchi en seconde partie d'émission. Dans les médias, c'est l'actualité récente qui va nous intéresser. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Un retour arrière, donc nous allons commencer avec un concert auquel nous avons assisté ensemble, Serge, celui qui ouvrait la saison Toulouse Guitare. C'était le dimanche 2 octobre à la chapelle des Carmélites. Il était donné par la jeune guitariste tchèque Petra Polačková, dont c'était la première venue à Toulouse. Et c'est une première qui fera date, nous allons y revenir, parce que comme le veut la tradition de Toulouse Guitare, il y a eu une première partie avant le concert de Petra Polačková, et nous avons pu y découvrir un jeune talent toulousain, actuellement étudiant à l'ISDAT. Comment s'appelle ce musicien en devenir, Serge ?
Eh bien, ce musicien s'appelle Robin Tahar, et donc c'est un musicien, oui, qui fait ses études à l'ISDAT, que nous avions déjà entendu lors de la présentation de la saison, par Thibaut Garcia, et donc nous le retrouvons là, dans des conditions un peu particulières, puisque c'est à la chapelle des Carmélites que ça se passait, et quelquefois l'acoustique pour la guitare est un peu difficile, surtout pour les spectateurs qui se trouvent au fond de l'église. Et bien là, nous avons inauguré un nouveau système avec des conques acoustiques qui sont disposées derrière le musicien, et vraiment l'amélioration a été spectaculaire. Donc soulignons que ce genre de dispositif est à développer et à utiliser dans d'autres circonstances.
Ce qui devrait être le cas, je sais qu'il a été utilisé aussi à l'église du Jésus lors de plusieurs concerts, je pense, de Toulouse les Orgues, et puis ça pourrait être utilisé dans d'autres salles qui jusqu'alors n'étaient peut-être pas accessibles pour des concerts, qui pourraient le devenir, donc vraiment une affaire à suivre.
Oui, absolument. Et donc, la première partie était dévolue à ce jeune musicien qui vraiment a fait preuve de beaucoup de talent, à la fois de professionnalisme, on peut le dire, de virtuosité, de sensibilité. Il a joué donc d'abord une introduction et variation sur un thème de Mozart de l'espagnol Fernando Sor, qu'il a joué avec beaucoup de finesse et de fluidité. Et puis ensuite, des pièces latines de compositeurs latins, puisqu'il y avait trois pièces colorées du vénézuélien Antonio Largo, ainsi que celle très colorée aussi de la valse numéro 4 d'un paraguayen, cette fois Agustín Barrios. Et c'était vraiment très très bien fait. Il a été chaleureusement applaudi et puis donc il a cédé la place à, je pourrais dire, la vedette de la soirée, Petra Polačková, qui a donc défendu un programme avec, je voudrais dire, le premier mot qui me vient, c'est la musicalité, la finesse, l'intelligence du jeu, un programme qui mêle à la fois originalité et diversité. Et puis il faut dire qu'elle joue d'une guitare un peu particulière.
Très particulière.
Que pour ma part, je n'avais jamais entendu une guitare dite romantique à 9 cordes. Alors, c'est très bizarre. Elle a l'allure d'un petit éorbe avec des cordes à vide, des cordes,
3 cordes
de résonance. Oui.
Et vraiment, les 6 cordes habituelles.
Oui, voilà. 9. Donc, intéressant. Et la sonorité s'en ressent en ce sens que le registre grave est plus profond et les aigus sont paradoxalement plus lumineux. Alors donc, tout va bien. Elle a joué une série de pièces. Donc, alors d'abord, une pièce de Sylvius Leopold Weiss, donc compositeur allemand, avec
de l'époque de Bach, il faut le préciser.
Là, c'était contemporain.
Un compositeur baroque, exact contemporain de Bach. Il est mort en 1750, comme Jean-Sébastien Bach.
Oui, oui.
Mais elle l'a joué sur une guitare romantique.
Voilà, exactement. La pièce s'appelle « Tombeau sur la mort de Monsieur le Comte de Logis ». Bon, j'avoue que je ne connaissais pas ce conte, mais c'est très bien. C'était vraiment une belle démonstration à la fois de finesse, là aussi encore, d'intelligence. Alors, disons que cette œuvre est écrite à l'origine pour luth et que c'est l'interprète elle-même qui l'a adaptée à la guitare en 9 cordes. Alors, il y a à la fois des passages sombres comme une déploration, en particulier dans l'allemande, et puis avec un sommet expressif quand même qui est la sarabande, une véritable complainte, mais d'une émotion formidable.
Je pense que le terme émotion, c'est celui qui résume bien d'abord ce qu'on a pu ressentir.
Exactement.
En assistant à ce concert et puis le jeu vraiment de cette
elle fait les bons choix,
extraordinaire.
Les bons choix de phrasé. Ben, le phrasé, c'est quand même important en musique.
Mais alors, pour donner aussi l'étendue de cet instrument, cette guitare à 9 cordes, moi j'avais l'impression par moment lors de l'interprétation de ces morceaux de Silvius et Leopold Weiss d'entendre un clavecin.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, ce dispositif des cordes n'affecte pas que le grave. Ça modifie aussi l'aigu. Donc, vraiment quelque chose, une découverte intéressante. Ensuite, elle a joué des extraits d'une pièce de Johann Caspar Merz qui s'appelle Bardenklang, c'est-à-dire le son des bardes, hein, en quelque sorte. Alors, avec des extraits significatifs, hein, ça donne vraiment une bonne idée du romantisme qui imprègne là les créations de ce compositeur. 4 extraits significatifs, avec beaucoup d'animation, d'inquiétude, de nostalgie, et notamment le dernier extrait, qui est intitulé « Unruhe », inquiétude donc, en français, c'est une espèce d'agitation fiévreuse que pour ma part, j'ai trouvé tout à fait schubertienne. Alors ça tombait bien parce que la dernière partie du récital, c'était justement des transcriptions de Lieder de Schubert par le même Johann Caspar Merz. Et là, vraiment, on a eu la démonstration que cet instrument joué par cette dame avait des qualités incroyables, puisqu'on avait l'impression qu'il y avait deux instruments.
Deux guitares.
Ouais. Un qui donnait la voix, qui était dédié à la prosodie même.
On avait
l'impression d'entendre une voix. Et l'autre, l'accompagnement, stupéfiant. Vraiment.
C'était troublant. Hein,
vraiment complètement, complètement. Et avec, évidemment, le lead qui a le plus atteint notre sensibilité, c'était le Ständchen, donc la fameuse sérénade qui est extraite du chant du cygne, du Schwanengesang. Et donc là, une émotion à son apogée. C'était vraiment très, 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 très touchant.
Elle a été très applaudie, évidemment,
Et
elle est revenue donner 2 bis.
Et oui. Notamment une pièce pour vihuela, donc la vihuela, c'est la guitare baroque, hein, d'un certain Miguel de Fuegnana, que j'avoue avoir découvert.
Il y avait beaucoup de découvertes
ce jour-là. Et donc, elle a ensuite donné un autre extrait des Bardenklänge de Merz, donc pour terminer. Et elle a recueilli une ovation debout, ce qui n'est pas si fréquent, dans cette église, donc, dans cette église magnifique que l'on aime tellement, donc à Toulouse.
Ouais, première fois qu'elle venait à Toulouse, mais sans doute même des premières fois qu'elle venait en France, je pense.
Et oui, et puis elle en a profité, si l'on peut dire, pour la veille donner une masterclass au conservatoire.
Qui a été très appréciée.
Très appréciée, moi je trouve que les élèves sont bien heureux de pouvoir profiter, bénéficier de cette contribution.
Alors comment est-elle arrivée à Toulouse, cette pétition Paul Latchkova? Alors je crois que celui qui l'a découverte, c'est Benoît Albert, qui lui est professeur de guitare au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et qui est un des programmateurs de Toulouse Guitare. Il en a parlé à Thibaut Garcia, qui la connaissait aussi un petit peu, à Jules Garcia, le président de Toulouse Guitare. Et ils ont pris, il faut le dire, le risque de faire venir cette musicienne que personne ne connaît à Toulouse.
Oui. Et c'était une réussite. Et
il fallait prendre ce risque. Bravo à eux. Bon, elle a beaucoup aimé l'accueil du public. Elle s'est baladée dans Toulouse. Elle a adoré la ville. Elle a adoré la beauté de la chapelle des Carmélites.
Oui.
Donc, je crois qu'on peut dire, on la reverra très, très certainement.
Oui, certainement.
On peut le parier. Nous allons essayer de retrouver un peu de l'émotion que nous avons ressenti lors de ce concert en écoutant Petra Polachkova et sa guitare 9 cordes dans une interprétation de Ständchen, la fameuse sérénade de Franz Schubert. Thank you. Extension de Franz Schubert, le dernier Lied Sérénade composé par le grand compositeur autrichien peu avant sa mort et qui fut d'ailleurs publié à titre posthume. Il était donc interprété ici par Petra Polachkova dans une transcription pour guitare. Quel talent, quelle merveilleuse musicienne, nous avons vraiment eu beaucoup de chance de la découvrir ce dimanche 2 octobre. Et il faut encore une fois remercier l'équipe de Toulouse Guitare qui a pris le risque de programmer cette jeune guitariste tchèque totalement inconnue à Toulouse. Nul doute qu'on la réentendra rapidement dans la Ville Rose. Notez que le prochain concert de Toulouse Guitare a lieu le jeudi 1er décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le duo guitare-violoncelle formé par Pablo Marquez et Anya Lechner qui vont jouer eux aussi un programme entièrement dédié à Schubert. Nous changeons complètement de registre maintenant en revenant sur le concert du cycle Happy Hour donné par l'Orchestre National du Capitole samedi dernier à 18h à la Halle au Grain. Il était dirigé par la Norvégienne Tabitha Berglund et Serchosi y a assisté évidemment. Il y avait deux œuvres au programme. Avez-vous apprécié la direction de cette jeune chef d'orchestre, Serge?
Oui, alors il s'agit d'une direction très directive, je pourrais dire, très passionnée. Et vraiment très énergique. Alors, il y avait deux œuvres très différentes. Hein. Tout d'abord, le fameux Prélude et mort d'Isolde de l'opéra Tristan et Isolde, donc de Wagner, qui était donné, alors évidemment, dans la continuité, les deux pièces enchaînées. C'est une pièce très courante en concert. Hein. Là, elle a montré vraiment, une direction passionnée et nerveuse, mais ce que, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié dans sa direction, c'est le déploiement des nuances. Nuances contrastées avec, comme on pourrait dire ici, un piano subito. Et puis tout d'un coup, un court crescendo, mais bien fait. Et donc, une dynamique positive, je dirais, dans cette succession du prélude et de la mort. Mort d'amour, il faudrait dire, Liebesto. Oui. Alors, cette partition a été suivie donc de la première symphonie de Jean Sibelius.
La première des sept.
Alors, il faut préciser que le Happy Hour débute à 18h le samedi et c'est très favorable à la venue des familles. Et il y avait beaucoup de familles et beaucoup d'enfants d'ailleurs qui ont assisté à ce concert, donc très bien. Et d'ailleurs, avec des applaudissements entre les mouvements, un peu, qui montrent que les gens ne sont pas des habitués, oui. Mais à la fois c'est très sympathique de constater qu'il y a des gens non habitués au concert qui vont à ces happy hours. Donc c'est très positif. Alors, cette première symphonie de Sibelius, initialement, le compositeur avait prévu un programme précis par mouvement. Chaque mouvement était une allusion à un élément de la nature. Hein. Donc c'est une symphonie, une sorte d'hymne à la nature.
Bah, souvent très présente la nature dans l'œuvre de Sibelius,
toujours,
dans l'œuvre de la plupart des compositeurs scandinaves.
C'est vrai. Alors, tout débute par ce beau solo de clarinette et les Jacques, hein, sur le léger roulement de timbales. C'est magnifique, hein, ce début de symphonie. Et ensuite vient le mouvement vif, alors, et c'est là que vraiment la direction de la chef s'est montrée particulièrement puissante, énergique, parfois presque trop, puisqu'elle sollicitait surtout les vents, quelquefois au détriment des cordes.
Et ça écrasait
les cordes. Voilà, des outils. Vraiment éclatant et très beau, on connaît les qualités de notre orchestre, hein, donc on les admire évidemment. Mais les vents dominent, ça c'est certain. Et donc, cette énergie que je qualifierais presque d'irrépressible, par moment, elle a son côté négatif par un excès de tension qui gomme un peu la nécessaire détente quand même. Donc, on aimerait respirer un peu plus.
Hein, on était toujours sous tension, apparemment.
Entre les toutis. Mais bon, elle a été très appréciée, hein, du public, et elle a même fait jouer un bis par l'orchestre. Alors là, qui changeait tout à fait, puisqu'il s'agissait encore de Sibelius, de la valse triste, très célèbre.
Ah oui, là, c'est autre
chose, oui. Et là, évidemment, il n'est pas question. D'abord, il n'y a pas de cuivre.
Oui.
Et puis, non, elle l'a très bien dirigée. Et donc, c'est une première happy hour de la saison et qui en appellera de nombreuses autres. Donc, c'est vraiment...
Oui, parce que c'est un cycle très apprécié du public.
Ah oui, hein, très apprécié, avec des prix très bas et qui permet aux familles de venir à 18h.
Je pense que c'est le genre de concert idéal lorsqu'on veut commencer à aller écouter de la musique classique, symphonique, dans une grande salle, par un grand orchestre. Nous allons réécouter cette première symphonie de Sibelius, le début du troisième mouvement Scherzo, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, placé sous la direction de Klaus Mäkelä, brillant jeune chef finlandais qu'on a vu il y a quelques années plusieurs fois à la tête de l'Orchestre National du Capitole. Thank you. Le début du troisième mouvement Scherzo de la première symphonie de Sibelius, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Klaus Mäkelä. Le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole est donné à l'Allograin samedi prochain, 15 octobre à 20h. Nous allons en parler en seconde partie d'émission, mais c'est terminé pour cette première partie. Petite pause avant de vous présenter l'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chosy et Clément Lanfranchi. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy et avec notre invité d'honneur Clément Lanfranchi, fondateur et directeur musical du Consort Apollon. Le jeune ensemble toulousain est en concert lundi 17 octobre à 20h30 à Toulouse, à l'église Saint-Nicolas, c'est pas très loin de la radio d'ailleurs, avec un programme Lully et Rameau, le grand baroque français. Donc nous allons présenter ce concert et son programme avec Clément Lanfranchi dans quelques minutes, mais auparavant je voulais faire un rappel. C'est mercredi 12 et jeudi 13 octobre, l'Opéra National du Capitole accueille deux représentations de Daphnis et Alcimadur, l'opéra de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville, un opéra en occitan à l'exception de son prologue qui lui est en français. Il a été recréé le 1er octobre en version concert au théâtre Olympe de Gouges à Montauban par l'Orchestre des Passions et le chœur Les Éléments. C'était en ouverture du festival Passion Baroque qui s'est terminé dimanche. Nous avions reçu, je pense que vous vous en souvenez, Jean-Marc Andrieux, le directeur artistique de l'Orchestre Les Passions et du festival Passion Baroque, pour évoquer cette recréation de Daphnis et Alcimadur, un projet qu'il nourrissait depuis des années. J'ai assisté pour ma part à cet événement très attendu le 1er octobre à Montauban et j'ai découvert vraiment une partition magnifique. J'évoquais le grand baroque français tout à l'heure à propos de Lully et Rameau. La musique de Mondonville est tout à fait digne de celle de ses deux illustres aînés. Il y a d'ailleurs une parenté, une filiation évidente avec celle de Rameau. Les chants sont très beaux aussi, que ce soit les chœurs superbement interprétés par Les Éléments ou les airs des quatre solistes. Le prologue a été chanté par Hélène Lecor, Élodie Fonard était Alcimadur, François-Nicolas Gélot était Daphnis et Fabien Yon était Jeannette, le frère d'Alcimadur. Tous ont été excellents de l'avis général, pas seulement du mien, y compris concernant leur prononciation de l'occitan, saluée par les spécialistes présents dans la salle. Une vraie réussite que nous avons donc la chance de pouvoir découvrir à Toulouse, à l'Opéra National du Capitole, les 12 et 13 octobre à 20h. Voici un extrait de Daphnis et Alcimadur dans la version dirigée par Jean-Marc Andrieux, un air de Jeannette chanté par Fabien Yon avec le chœur Les Éléments, suivi d'une danse, un tambourin.
Thank you.
un air de Jeannette chanté par Fabien Yon avec le chœur Les Éléments, suivi d'un tambourin extrait de Daphnis et Alcimadur, version Passion de Montauban sous la direction de Jean-Marc Andrieux, à voir, à découvrir à l'Opéra National du Capitole les 12 et 13 octobre à 20h. C'est à nous maintenant, Clément Lanfranchi, pour présenter le prochain concert du Consort Apollon, l'ensemble que vous avez fondé et que vous dirigez depuis près de 3 ans, je crois.
Tout à fait.
Je vais vous demander de nous rafraîchir un peu la mémoire, parce qu'il faut que vous nous rappeliez qui sont les musiciens qui composent cette formation et quel genre de répertoire vous abordez, quel est le répertoire auquel vous vous consacrez.
Eh bien, le Consort Apollon est né d'une idée qui m'est apparue quand je suis arrivé au département de musique ancienne au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, c'était en septembre 2019. Et là, j'ai fait, on va dire, un constat, parce que j'avais terminé mes études de supérieure de direction dans la classe de l'ISDAT et en partenariat avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer en classe de continuo au clavecin et à l'orgue dans ce département. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de musiciens, de jeunes talents, qui ne demandaient qu'à pouvoir s'exprimer sur scène, dans des répertoires et sur instruments copies d'époque. Et je me suis dit, ça serait vraiment dommage de ne pas tenter l'expérience et de montrer à Toulouse qu'il y a, entre autres grands ensembles et grands orchestres qui composent le paysage toulousain, aussi des jeunes qui savent jouer de ces instruments dits spécialisés, un petit peu. Donc je trouvais l'idée vraiment, vraiment intéressante. Et donc l'idée est partie de là. S'en est suivi donc un concert d'ouverture, si je ne dis pas de bêtises, entre 4 et 5 jours avant le confinement.
Je confirme, parce que j'y étais.
Je crois que c'était 4 ou 5 jours avant le premier confinement dur. Donc on a subi tous cela de plein fouet.
C'est sûr que ce n'était pas le meilleur moment pour lancer une nouvelle formation.
Oui. C'est vrai que bon, si on l'avait su avant, bon, on aurait peut-être
vu... Vous avez quand même pu faire votre concert,
on a pu
annuler aussi.
On a pu le faire. Moi, je me suis battu vraiment pour vraiment le faire jusqu'au bout. On a eu beaucoup de succès, j'en suis très heureux, on a eu beaucoup de public, et puis s'en est suivi plusieurs mois de non-activité, et puis nous avons fait une saison suivante, et là nous en sommes donc à la troisième saison, qui débute donc lundi prochain. Et donc pour en revenir aux musiciens, donc ces musiciens sont pour la plupart issus du département, puisqu'on a travaillé ensemble. Pour certains, je les connaissais depuis bien longtemps, d'autres que j'ai rencontrés à l'occasion de ce département. Et puis, aujourd'hui, une grande majorité des musiciens sont toujours présents. Ce sont les mêmes musiciens.
Il y a un noyau qui s'est constitué au début, qui demeure.
En effet, l'idée en fait, du Consort Apollon, notamment pour nous en tant qu'artistes qui travaillons, je voulais aussi créer une sorte de famille musicale, que voilà, cette jeunesse, dont je suis issu, puisse se retrouver, faire de la musique ensemble, vivre des choses à la fois musicalement et humainement ensemble. Et j'ai la chance d'avoir cette équipe fabuleuse, donc entre les violons, théorbe, basse d'archet, traverso, percussion aussi, on en reparlera. Et voilà, donc il y avait aussi ce but de créer un lien fort entre nous et une cause commune, qui est à la fois de proposer bien sûr des concerts de qualité, bien sûr, avec ce souci du détail du diapason d'époque, du tempérament de l'époque, des styles de jeu, et à la fois de proposer du grand répertoire et des nouveautés, pourquoi pas, quand on a l'occasion, à un public de plus en plus large, et notamment le public jeune. Moi, je suis très, très friand de cela, et j'espère que la jeunesse toulousaine, et même française, un jour peut-être, puisse vraiment s'intéresser à cette musique-là, à ce répertoire qui n'est absolument pas oublié et qui même, je trouve, d'actualité.
Oui, alors c'est baroque, le répertoire, mais ça mord un petit peu sur le classique jusqu'à Mozart.
On peut tout à fait, avec des instruments dits copies d'époque, bien sûr, aller dans le baroque le plus
reculé,
primitif, entre guillemets, même si ce n'est pas du tout le bon terme, jusqu'à la période classique, voire même, on peut aller jusqu'à Mendelssohn, puisque ces symphonies pour cordes, par exemple, qui sont absolument magnifiques, peuvent être jouées sur instruments...
Tout début du romantisme.
Voilà, le tout début, où on peut encore jouer avec des cordes en boyau, par exemple, pour les cordes, et des instruments comme les trompettes naturelles, ou au bois baroque, ou traverso, on peut jouer cette musique-là. Ça se fait d'ailleurs de plus en plus en France, notamment les très grands ensembles qui peuvent se le permettre, font cela, et c'est une très très bonne chose. Nous, on essaye, à notre niveau, de faire un peu ce même travail. Donc on peut avoir un répertoire assez large, en effet.
Combien de musiciens sont investis dans le projet à ce jour ?
Ça dépend des programmations, puisqu'on est quand même à géométrie variable. On peut faire des concerts un petit peu intimistes, où je suis très souvent donc, au clavecin ou à l'orgue, et on peut être 3-4 sur scène, comme être presque une vingtaine d'instrumentistes sur scène en même temps pour des projets un peu plus d'envergure.
Le 17 octobre, le concert a lieu donc à l'église Saint-Nicolas, dans le quartier Saint-Cyprien. Il semble que ce soit devenu un petit peu votre porte d'attache. Alors, je ne sais pas si on peut parler de partenariat qui s'est mis en place avec cette paroisse, mais en tout cas, vous avez déjà donné plusieurs concerts à l'église Saint-Nicolas, et il devrait y en avoir d'autres. Est-ce qu'on peut parler de mini-saison ?
Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que, en ma qualité de claviériste, j'ai l'occasion depuis de nombreuses années de travailler notamment en tant qu'organiste liturgique. Je fais beaucoup, beaucoup ça depuis presque bientôt 6-7 ans à Toulouse. Et donc, je connais un petit peu le milieu ecclésiastique à Toulouse. Et je ne connaissais pas, il y a encore 2 ans, cette église Saint-Nicolas. En tout cas, j'en avais entendu parler, parce qu'on y passe devant sans forcément y prêter attention. Et quand je suis rentré à l'intérieur la première fois, je me suis dit, mais c'est vraiment un lieu qu'il faut faire redécouvrir aux Toulousains. Ça rejoint la mission du Consor Apollon, c'est une mission aussi de patrimoine musical, mais aussi de lieu, patrimoine architectural, qui pour moi est important. Et donc, quand je me suis rapproché de l'équipe de la paroisse de Saint-Nicolas, on a accroché de suite, et on a été accueillis vraiment à bras ouverts, et ça continue encore aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir vraiment de faire découvrir ou redécouvrir ce lieu.
Très beau lieu. Hein.
Très beau,
et puis
un peu exigeant.
Il y a de la place quand même.
Un peu exigeant parce que pour cette musique là qui nécessite beaucoup de détails, beaucoup de précisions, c'est quand même une acoustique un peu large, qui a beaucoup de résonance.
Grande église. Hein.
Mais c'est intéressant en tant qu'artiste de pouvoir véritablement travailler le détail du son dans une acoustique qui peut-être est un peu difficile et sur un répertoire qui normalement n'est pas joué dans des lieux de culte.
Oui.
Donc c'est très intéressant et je suis très heureux d'avoir fait partie des premiers artistes à Toulouse à avoir fait redécouvrir cette église qui maintenant est un petit peu plus connue.
Oui, tout à fait, mais je vois même Toulouse des orgues, parce qu'il y a un orgue, il y a un bel orgue.
Oui, un très très bel orgue.
Hein.
Si je ne dis pas de bêtises, c'est un Puget.
Un Puget, je crois.
Voilà,
aussi,
qui est un double buffet, qui est très très beau, qui malheureusement ne sonne que très peu, sauf pour les messes. Et donc c'est vrai que c'est intéressant que Toulouse les orgues puisse investir ce genre d'église pour faire redécouvrir ces magnifiques sons.
Nous allons regarder de plus près le programme du concert du 17 octobre avec vous, mais tout d'abord, un premier extrait en guise d'aperçu. Il s'agit d'une danse que l'on entend dans la musique composée par Lully pour le bourgeois gentilhomme, la comédie-ballet de Molière. Canari, danse extraite de la musique composée par Lully pour le bourgeois gentilhomme, la comédie-ballet de Molière, dans une version interprétée par le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall. Donc, au programme de votre concert du 17 octobre à l'église Saint-Nicolas, il y a en première partie de nombreux extraits des suites d'orchestre composées par Lully pour le bourgeois gentilhomme.
Tout à fait. J'ai construit ce programme autour donc de 2 œuvres emblématiques qui ont quand même quelques années d'écart, hein, puisque le Bourgeois Gentilhomme a été créé en 1670, alors que les Indes Galantes datent de 1735. Donc on a quand même presque une époque d'écart. Mais j'ai trouvé très intéressant de mettre en relief 2 genres assez distincts, mais qui ont quand même des points communs. C'est la comédie-ballet et l'opéra-ballet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'opéra, et on ne connaît presque que le genre de l'opéra quand on est en musique scénique, alors qu'à l'époque, il y avait des tragédies en musique, des comédies-ballets, des opéras-ballets, les ballets de cour, etc. Donc il y avait pléthore de genres différents, et je trouvais intéressant de mettre en relief ces 2 genres, parce que l'un, la comédie-ballet, est très axé sur le chant, en fait, même si lundi prochain vous n'entendrez pas de chanteur, puisque je mets à l'honneur surtout l'orchestre,
hein, ouais.
Voilà, donc issu de ces pièces-là, mais ça met en valeur énormément le verbe et le mouvement, alors que l'opéra-ballet est beaucoup plus issu du ballet de cour et donc met l'accent sur la danse au détriment du chant. Et donc ces 2 arts magnifiques, qui sont le chant et la danse, sont vraiment mis en valeur dans des... on va dire, les exemples du genre, le bourgeois gentilhomme et les Indes galantes. Donc c'était pour moi un beau challenge, entre guillemets, à relever, que de mettre en relief ces deux œuvres emblématiques.
Est-ce que c'est aussi mettre en regard deux conceptions de la musique, la conception italienne qu'a apporté Lully en France et la conception bien française qui serait celle de Rameau?
C'est très intéressant parce que, en effet, Lully et Rameau ont vraiment, on pourrait croire qu'ils n'ont pas beaucoup de choses en commun, mais Lully, qu'on nommait quand même le plus français des Italiens à l'époque, a vraiment embrassé la cause française. Alors on sait qu'il avait une admiration presque sans limite pour le jeune roi Louis, qui allait devenir Louis XIV, alors que Rameau, lui évidemment, est un Français, on va dire, de souche, si on peut dire, et qui a une conception de la musique bien différente. Lully a vraiment une idée, je crois, en tout cas à mon humble avis, de la musique qui est très organique. C'est vraiment l'expression pure et simple de la passion, ou des passions, et pour sublimer le roi. Alors que Rameau, très vite, comprend qu'il va, vouloir analyser sa propre musique. C'est pour ça que d'ailleurs c'est l'un des premiers, le premier théoricien de la musique, où il va conceptualiser, notamment avec les travaux du mathématicien Joseph Sauveur, de son époque, la musique comme étant à la fois une science physique, mathématique, et mélangée à un concept artistique, donc l'expression des passions. Donc c'est intéressant de voir ces deux conceptions de la musique, et le public va, je pense, découvrir ou redécouvrir cette différence entre la musique de Lully, qui est pour beaucoup de moments assez improvisée, même si on a une basse continue derrière, on a une partition vraiment très écrite, mais parfois, à certains moments, les solistes peuvent, on va dire, improviser, diminuer, ornementer le discours, alors que chez Rameau, on est quand même sur une conception un peu plus écrite, un peu plus sage, entre guillemets, et avec une instrumentation normalement assez différente.
Alors les pièces que vous allez jouer, ce sont des extraits où il y a vraiment toutes les suites d'orchestre du Bourgeois Gentilhomme et des Indes Galantes.
Alors si je n'écoutais que moi, on les ferait toutes, mais bon, ce serait un concert qui durerait 4 heures.
Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez retenu?
Vraiment, les extraits sont exclusivement des extraits qui ne sont que instrumentaux. Donc c'est-à-dire, ce sont des passages parfois de 40 secondes, parfois de 2-3 minutes, qui sont là pour faire la passation entre deux airs, ou entre deux actes. Alors, acte pour la comédie-ballet, alors on parle d'entrée pour les Indes galantes, mais en tout cas, ce sont vraiment des pièces exclusivement pour orchestre, il n'y a pas de transcription, il n'y a pas d'arrangement, on a juste occulté évidemment toutes les parties chantées, et c'est vraiment des passages pour normalement utilisé soit pour qu'un acteur puisse passer de jardin à cour, ou qu'il y ait un décor qui s'enlève ou qui se remette, mais qui participe au discours. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une restitution fidèle, en tout cas la plus fidèle possible, des deux œuvres. Et normalement, on doit un peu quand même introduire, puisque là nous n'avons pas de chant, donc nous allons normalement introduire chaque scène, on va essayer de faire comprendre au public là où nous en sommes dans l'histoire. Vous verrez ça lundi prochain.
On connaît votre talent pour présenter les œuvres que vous jouez et les compositeurs qui les ont écrites, Serge Chosy.
Oui, tout à fait, oui. Et j'avoue que j'ai assisté à deux types de prestations de l'ensemble du Concert Apollo. Prestations avec un effectif important, hein, donc, oui. Avec percussion, avec vent, cordes, clavier, etc. Et puis, je me souviens d'un concert en petit comité,
oui.
Très, très émouvant, très, très beau. Vraiment, on a les deux possibilités.
C'était le programme de Venise à Paris.
Si c'est ça, exactement. Bêtises,
oui,
exactement.
Tout à fait.
Non, c'était très, très, très touchant, même plein d'émotions, une belle prestation.
On a écouté Canary tout à l'heure, donc ça c'est un extrait du Bourgeois Gentilhomme. Il y a des tubes dans le Bourgeois Gentilhomme et dans les Indes Galantes, ils y sont, il faut que le public le sache.
Bien sûr, évidemment.
Il y a la marche pour la cérémonie des Turcs du Bourgeois Gentilhomme, j'imagine, et il y a le rondo, les sauvages, pour les Indes Galantes.
Évidemment.
Ben voyons.
Bien faire plaisir à tout le monde, à la fois à nous et aussi au public. Évidemment que nous aurons ces deux extraits très connus.
Entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Après un extrait du Bourgeois Gentilhomme de Lully, voici maintenant les deux tambourins des Indes Galantes, toujours dans une version du Concert des Nations de Jordi Savall. Thank you. Tambourin 1 et 2 des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau dans une version du Concert des Nations dirigé par Jordi Savall. Après le concert du 17 octobre, quels sont les projets du consort Apollon pour le reste de la saison, Clément Lanfranchi? Est-ce qu'on peut en savoir plus?
Eh bien, bon, tout d'abord, avant de te parler de cette suite de la saison, je ne peux pas m'empêcher de parler un petit peu, bien sûr, de l'association, du travail que nous faisons. Nous sommes encore une jeune association, donc ça fait 3 ans que nous existons, hein, décembre 2019, l'association existe depuis très très peu de temps finalement, et nous faisons un peu avec les moyens que nous avons encore, nous n'avons pas encore le soutien des grands, et donc nous faisons un travail de recherche intense avec les petits moyens que nous avons pour être aidés, pour être soutenus, sachant que nous portons, comme je le disais auparavant, un projet, je trouve, à la fois ambitieux mais juste, de donner vraiment accès à ce patrimoine extraordinaire musical et artistique même au complet. Donc nous sommes vraiment à la recherche de soutien, quel qu'il soit, qu'il vienne bien sûr de l'État ou de la région,
des collectivités,
ou du mécénat privé bien sûr. Alors on sait bien que la période est complexe et que nous arrivons comme ça, on va pas dire au débotté, mais bon, c'est un peu complexe, on le comprend. Mais voilà, nous avons vraiment à cœur d'y arriver. Mais pour ça, comme toujours, il faut un petit peu d'aide. Donc j'espère que dans les prochains mois, nous aurons des opportunités par rapport à cela. Pour continuer sur la saison, nous avons 2 projets que je suis en train de finaliser. Un projet qui va se dérouler fin mars, début avril. Nous espérons faire 2 concerts, un à Toulouse et un à l'extérieur de Toulouse, dans la région, sûrement dans le département, autour des madrigaux de Monteverdi et Gesualdo. Donc un très 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 beau programme. Alors je n'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas, ça inaugure que la voix puisse venir enfin au Consort Apollon. Ça fait un moment que j'attends de faire cela. Évidemment, ma formation de chanteur
me
donne à penser quand même qu'il faut le faire, hein, bien sûr. Et puis, donc là, un projet, je ne vais pas dire intimiste, mais nous serons assez peu sur scène normalement. Nous serions que 12 ou 13, donc instruments et chants. Et puis un projet un peu plus d'envergure, puisque j'ai le projet de monter le Magnificat de Johann Sebastian Bach fin mai, avec évidemment les instrumentistes du consort, 5 solistes bien sûr, et le chœur, et nous sommes en train de travailler avec le jeune chœur Tempus 21, avec qui j'ai travaillé l'année dernière, en collaboration avec les Sacs-Voutiers de Toulouse. Nous nous sommes rencontrés donc grâce à cela, donc avec cet ensemble, et ça a bien matché, et on a réfléchi, on s'est dit pourquoi pas allier nos forces, puisque nous sommes 2 entités assez jeunes dans le paysage toulousain, mais pourquoi pas faire une très belle œuvre, à la fois donc de Bach, et puis faire découvrir un compositeur un peu moins connu, un compositeur qui s'appelle Touma, voilà, qui est un compositeur qui n'est pas du tout connu du grand public. Moi-même, je ne connaissais pas encore il y a quelques semaines ce compositeur, donc on travaille sur ces partitions et voir peut-être une œuvre qui pourrait être mise en relief avec évidemment le grand chef-d'œuvre de Johann Sebastian Bach.
Donc ça, c'est pour le printemps prochain.
Alors ça, ce serait fin mai.
Fin mai.
Voilà, donc mars-avril et puis mai, donc vraiment deuxième partie de saison, vraiment 2023,
début
le temps que nous puissions
pour
travailler.
Un des projets et plutôt fin du printemps pour le second.
Et puis j'ai bien d'autres projets qui sont dans ma tête, évidemment, avec le consort. Moi, j'ai envie de développer beaucoup, beaucoup ce projet et en tout cas cette musique. Et donc, on verra dans quelques mois. J'espère avoir de très bonnes nouvelles à vous annoncer.
Nous l'espérons aussi. Nous allons poursuivre cette émission en présentant 2 concerts programmés samedi et lundi prochain. Tout d'abord, celui de l'Orchestre National du Capitole, samedi 15 à 20h, là, à Logrin. Une seule œuvre au programme, Serge Chosy, mais une œuvre colossale.
Ah bah oui, puisque c'est l'œuvre la plus longue jamais composée par Brahms. Et donc son Requiem allemand, Ein Deutsches Requiem, un Requiem allemand. Le titre exact, c'est un Requiem allemand sur des textes de l'Écriture sainte pour soliste, chœur et orchestre, avec orgue ad libitum. Voilà le titre exact, traduit en français quand même. Je ne vais pas vous infliger la version germanique. Donc, le Requiem, ce fameux Requiem allemand, bon, un grand Requiem romantique, hein, donc, et pour la direction de l'Orchestre National du Capitole, ben, nous accueillerons un nouveau venu, un chef invité qui vient de Belgique, qui s'appelle David Reiland, qui est en même temps le directeur musical et artistique de l'Orchestre de Chambre du Luxembourg. Et donc,
Il me semble qu'il est aussi chef de l'Orchestre National de Metz, David Reiland.
Ah d'accord.
Je crois. Et je pense qu'il a aussi des antennes, si je puis dire, à Séoul, au Korean Symphony Orchestra de Séoul.
Absolument.
Donc, chef très demandé.
Très demandé. Alors, c'est amusant parce que la soliste, la soprano soliste, est justement sud-coréenne.
Mais voilà.
Elle s'appelle Sunhae Im. Alors là non plus, je ne garantis pas la prononciation du coréen. Et donc, elle a mené ses études à Séoul, puis à la Hochschule für Musik de Karlsruhe. Donc, elle a une tradition importante. Et le baryton, parce qu'il y a un rôle très important joué par la voix de baryton, c'est le baryton franco-irlandais Edwin Crossley Mercer, qui est aujourd'hui vraiment présent sur de grandes scènes internationales, hein, et qui a quand même étudié l'opéra et le lied auprès de Dietrich Fischer-Dieskau, qui est tout de même une certaine référence. Donc, voilà les deux solistes. Et évidemment, l'Orchestre National du Capitole et le chœur de l'Opéra National du Capitole, lui aussi, donc, participe à cette exécution. Donc, ça va être un concert
consistant. Ça s'annonce très bien, on va le dire comme ça.
Oui, exactement.
Donc, voici un extrait d'un requiem allemand de Johannes Brahms, l'air intitulé « Car nous n'avons pas de place permanente ici », je le traduis en français, interprété ici par le Berliner Philharmoniker, dirigé par Rudolf Kempe. On y entend aussi la voix de Dietrich Fischer-Dieskau. Car nous n'avons pas de place permanente ici, air extrait d'un requiem allemand de Johannes Brahms, interprété par le BPO, dirigé par Rudolf Kempe, avec Dietrich Fischer-Dieskau en soliste. L'Orchestre National du Capitole donne donc un requiem allemand ce samedi 15 octobre à 20h à la Halle au Grain, sous la direction du chef belge David Reiland. Et puis lundi 17, encore à la Halle au Grain et à 20h également, premier concert de la saison des grands interprètes, qui donne lieu au retour à Toulouse de l'ensemble Pygmalion et de son fondateur et directeur musical Raphaël Pichon. Ils vont accompagner le baryton Stéphane Degout et la soprano Judith Fa. Dans quel programme, Serge? Alors là aussi, c'est très très germanique.
Ah oui, un programme que Raphaël Pichon a intitulé « Mein Traum », c'est-à-dire « Mon rêve » en allemand. Donc c'est un programme qui se concentre sur la musique de Schubert. Il n'y a pas que du Schubert, il y a également du Weber et il y a également
du Schumann.
Donc, mais c'est surtout du Schubert avec Bon, ben, une espèce de medley des grandes œuvres de Schubert. Il y a même la symphonie inachevée qui est jouée, dont les deux mouvements complets, évidemment, les seuls complets, seront joués, mais pas à la suite même. Ils sont intercalés avec des leaders, avec des extraits d'oratorio, l'oratorio Lazarus qu'on n'entend jamais, et même d'un opéra que, pour ma part, je n'ai jamais entendu, qui s'appelle Alphonse und Estrella. Bon, très bien.
Les opéras de Schubert, de toute façon,
non.
C'est pas trop, ils sont joués peut-être en Autriche de temps à autre, mais bon.
Encore, oui, c'est pas évident. Alors, il y a un autre air d'opéra, l'air d'Orient de Weber, donc, en récitatif et en air. Et puis, il y a aussi du Schubert Brahms, donc vraiment un programme fait sur mesure.
Oui,
en quelque sorte.
Dire ça.
Fait par Raphaël Pichon.
Avec deux magnifiques chanteurs.
Avec deux grands chanteurs, puisqu'il y aura d'une part Stéphane Degout, que l'on connaît bien à Toulouse, qui a fait un vaut de sexe stupéfiant il y a quelque temps.
Il restera dans l'histoire.
Ah oui, tout à fait. Et une soprano, Judith Fah, donc, qui vient donc, et qui a commencé son parcours musical. Elle a la maîtrise de Radio France, donc elle est issue de là. Et elle a été qualifiée par le journal Le Monde de soprano stratosphérique. Alors bon.
Eh ben, dites donc. Donc le programme de ce concert est aussi celui d'un CD dont le titre, oui, Serge Chosy l'a cité, est Mein Traum, mon rêve, paru il y a quelques mois sous le label Harmonia Mundi. Nous allons en écouter un extrait. Sing mir Vater der Jäger, air de l'acte 2 de l'opéra Alfonso und Estrella de Franz Schubert, interprété par Judith Fah, Stéphane Degout, accompagné par l'ensemble Pygmalion. Sing mir Vater der Jäger, air de l'acte 2 de l'opéra Alfonso und Estrella de Franz Schubert, interprété par Judith Fah et Stéphane Degout, accompagné par l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon, un extrait de leur CD Mein Traum, paru en juillet dernier sous le label Harmonia Mundi. Ce CD d'air d'opéra et de leader de Schubert, Schumann et Weber constitue l'essentiel du programme que donne l'ensemble Pygmalion, Stéphane Degout et Judith Fah, les mêmes, lundi 17 octobre à 20h à la Halle au Grain, pour le concert d'ouverture de la saison des grands interprètes. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie. Un grand merci à vous deux, Serge Chosy et Clément Lanfranchi, d'en avoir été les invités. Plusieurs rappels avant de conclure. Notez tout d'abord qu'il reste deux représentations de Rusalka, l'opéra d'Antonin Dvorak à l'Opéra National du Capitole, les 14 et 16 octobre, respectivement à 20h et à 15h. Les places sont à réserver et acheter en ligne sur le site www.theatredukapitole.fr. Toujours à l'Opéra National du Capitole, je signale de nouveau les deux représentations de Daphnis et Alcide Madure, l'opéra en occitan de Mondonville, les 12 et 13 octobre à 20h, dans la version des Passions de Montauban et du chœur Les Éléments. Le Festival de Toulouse des Orgues se poursuit jusqu'au 16 octobre. La programmation et la billetterie en ligne sont disponibles à l'adresse www.toulouse-les-orgues.org. L'Orchestre National du Capitole, dirigé par David Reiland, donne un requiem allemand de Johannes Brahms, samedi 15 octobre à 20h à la Halle au Grain. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Et enfin, je rappelle que le concert Lully Rameau du Consort Apollon, dirigé par Clément Lanfranchi, a lieu lundi 17 octobre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas de Toulouse dans le quartier Saint-Cyprien. Vous pouvez vous renseigner sur le site www.leconsortapollon.com. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de nous être toujours fidèles et très bonne semaine musicale à tous.